Parler du nucléaire n'est pas chose facile. La discussion est souvent technique. Heureusement, Bernard Laponche, physicien nucléaire, connaît la technique sur le bout des doigts. Aucun neutron n'a de secret pour lui. Mais ce n'est pas qu'une question technique, c'est aussi une question politique. En France, nous sommes 66% à vivre à moins de 75 km d'un réacteur nucléaire. Il est grand temps que la population soit actrice des choix énergétiques. Et enfin, le nucléaire est un sujet éthique. Quelle est la responsabilité que nous portons en faisant des choix techniques aujourd'hui qui impactent les générations futures? Technique, politique, éthique, voilà les trois regards que Bernard Laponche peut porter sur le nucléaire. Ce podcast s'appelle « Un déjeuner chez Bernard » et c'est parti. Eh bien bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Un déjeuner chez Bernard. Aujourd'hui, nous allons parler d'Oppenheimer, parce que nous sommes allés tous les deux, pas ensemble malheureusement, voir le film sur Oppenheimer. Qu'est-ce que tu as pensé de ce film, Bernard ?
Ah, j'ai trouvé remarquable. Beaucoup d'ailleurs du fait du jeu d'acteur, parce que l'acteur est extraordinaire, en plus il ressemble à Oppenheimer. Et même le général, le fameux général qui en fait représente l'armée américaine et l'État américain, aussi ressemble beaucoup. J'ai trouvé d'ailleurs une photo réelle d'Oppenheimer et du général qui sont juste après l'explosion de la première bombe. Ils ont d'ailleurs des chaussures avec des protections blanches contre la radiation, enfin bon. Et c'est exactement l'image qui est dans le film. C'est assez remarquable. Alors, ce qui apparaît pas suffisamment dans le film, on a l'impression que, justement, à Los Alamos, le centre qu'ils avaient créé pour la bombe, que tout s'était concentré là, quoi. C'est-à-dire que tout avait été fait là. Et qu'il y avait, je sais plus combien, 40 000 personnes qui travaillaient là, et que c'est eux qui avaient fait tout ça. Et en fait, le projet Manhattan, c'est des centaines de milliers de personnes. Dans des sites en dehors de Los Alamos, parce que pour aboutir à construire cette fameuse, la première bombe là, à uranium enrichi, il fallait un effort industriel absolument colossal. Et aussi, puisqu'il y a deux façons de faire la bombe à cette époque, c'était soit de l'uranium très enrichi, on parle d'uranium naturel et on l'enrichit, soit faire des réacteurs nucléaires qui produisent du plutonium. On extrait ce plutonium et avec ce plutonium, on fait une bombe. D'ailleurs, la bombe de Hiroshima a été une bombe à l'uranium, très enrichie, et la bombe de Nagasaki était une bombe au plutonium. Et la bombe à uranium très enrichie avait été testée, c'est ce qu'on voit dans le film. Par contre, la bombe au plutonium a été testée sur Nagasaki. C'était un test. Okay. Et cet aspect industriel, on ne le voit pas du tout. On a l'impression que ces deux mecs, là, avec leur équipe de 40 000 personnes, ils ont fait la bombe. Et en fait, il y avait plusieurs centres industriels très, très importants, et en particulier Hanford, qui est dans l'État de Washington, au nord-ouest des États-Unis. C'était un centre absolument énorme, avec des centaines de milliers de personnes. Où il y avait les réacteurs nucléaires, plusieurs réacteurs nucléaires, à uranium naturel, graphite gaz d'ailleurs, pour produire le plutonium. Et donc à partir de là, il fallait une usine de retraitement pour extraire du combustible irradié ce fameux plutonium. Et donc c'était énorme. Et pour te dire, et je crois que les usines d'enrichissement, qui étaient aussi d'énormes usines d'enrichissement par diffusion gazeuse, c'était encore dans d'autres sens. Donc il y a eu probablement des millions de personnes qui ont travaillé pour aboutir à ce résultat. Donc ça, c'est un peu... Bon, on comprend qu'il faut des raccourcis dans un film, mais enfin, j'ai trouvé récemment, après le film justement, l'organigramme du projet Manhattan, c'est absolument colossal. Le centre machin... Toutes les industries étaient mobilisées pour fabriquer, pour toutes ces opérations. Et à Hanford, il y avait donc les réacteurs, les usines de retraitement, etc. Et la ville de Hanford, à côté, vivait de ce centre, enfin, de ces activités. Et quand ça a été fermé, et depuis, donc ça a été fermé, je ne sais pas, dans les années 70 peut-être, la ville maintenant, depuis, vit du démantèlement du centre d'Hanford. Tout est pollué, c'est absolument épouvantable. Il y a une rivière, la rivière Columbia, qui est pourrie. Enfin, c'est épouvantable. Et j'avais vu une interview du chef des équipes, très nombreuses d'ailleurs, qui doivent démanteler, qui ont donc démarré le démantèlement probablement dans les années 70. Ça continue, et le type expliquait que cette activité-là nourrissait la ville de Hanford et qu'il avait un budget de 6 milliards de dollars par an et qu'il pensait qu'il y en avait pour au moins 60 ans.
C'est bien.
Donc, c'est dire si ce projet a été extraordinaire et quand on voit donc, l'immensité de ce qui est représenté, qui n'est pas visible dans le film, parce que entre la première fois qu'on a montré que la réaction en chaîne était possible, c'est en 1942, à Chicago, la pile d'Enrico Fermi, l'uranium naturel graphite-gaz, d'ailleurs, qu'ils ont reproduite pour après dans le projet Manhattan, et la bombe qui a explosé en août 1945. C'est-à-dire un peu plus de 3 ans, quoi. C'est invraisemblable, enfin c'est inimaginable cet exploit à la fois scientifique et industriel. On comprend tout ça, mais on ne comprend pas l'ampleur de ce programme. On a l'impression que c'est quelques mecs dans un coin qui ont fait la bombe, alors qu'en fait c'est un effort industriel qui a mobilisé des millions de personnes et des sommes évidemment considérables. Donc bon, du point de vue de la technique, enfin de l'histoire, ça m'a frappé, mais je pense bien qu'ils ne pouvaient pas. Enfin, d'abord, ils se sont concentrés sur la personnalité d'Oppenheimer et pas forcément sur l'historique du projet Manhattan. Mais pour la personnalité d'Oppenheimer, que je ne connaissais pas dans le détail, je trouve que c'est très bien fait et que ça montre bien la fascination du scientifique pour montrer que c'est possible, quoi. C'est-à-dire la fission avait été découverte, la structure de l'atome. Il faut voir que tout ça est récent. La découverte du neutron qui est décisive pour ces opérations, c'est en 1938. La découverte de la fission, c'est 38 ou 39. Après ça, il y a Joliot-Curie en France qui avait pris des brevets pour montrer qu'on pouvait utiliser ça sans que ça ait été prouvé expérimentalement, mais à partir des calculs, que ça pouvait être utilisé d'une part pour faire les bombes et d'autre part pour faire les réacteurs. Et en fait, il avait des brevets. Ces brevets ont été payés pendant assez longtemps. Après, il y a eu des accords internationaux pour dire que bon, la question des brevets était terminée. Et Joliot-Curie, d'ailleurs, lui-même, après, s'est opposé quand la France a voulu, à son tour, développer avec De Gaulle, le nucléaire à la fois civil et militaire. Joliot-Curie s'est opposé aux usages militaires. Il a participé à l'appel de Stockholm, etc. Il a fait partie, c'était l'un des plus importants, alors que beaucoup de scientifiques français sont, plusieurs en tout cas, sont partis et ont travaillé aux États-Unis et au Canada pour la mise au point des bombes. Lui est resté en France. Et il a soutenu la résistance, etc. Mais il n'est pas parti aux États-Unis. Et alors, ce qui a permis le succès de toute cette affaire du côté des États-Unis, ça a été beaucoup les scientifiques allemands qui étaient très en avance sur ces questions, qui sont partis aux États-Unis parce qu'ils étaient juifs. Et s'il n'y avait pas eu ça, les Allemands auraient probablement fait la bombe. Et c'est d'ailleurs par rapport à l'Allemagne que la bombe a été conçue. Ces savants juifs, dont Einstein, qui ont dit à Roosevelt, dès 1942, dès la décision des États-Unis d'entrer dans la guerre, ils ont dit, écoutez, il faut arriver avant Hitler à la possession de la bombe. Alors du côté allemand, il y avait des scientifiques certainement qui étaient restés, qui n'étaient pas juifs, et qui étaient capables de faire la bombe. Mais ça n'a pas intéressé Hitler. Il n'a pas soutenu cet effort, heureusement, parce qu'il y avait tout à fait la possibilité que les Allemands y arrivent assez rapidement. Et, par contre, les Russes ont été très intéressés très vite, et Staline était aussi très intéressé par le développement de la bombe.
Moi, tu parles de la fascination d'Oppenheimer pour la recherche scientifique, pour essayer de voir si c'est possible et tout. Moi, le film, je trouve que ce personnage, il est assez transparent presque. J'arrive pas à savoir qu'est-ce qu'il pense, j'arrive pas à savoir exactement qu'est-ce qui le motive. Moi, j'ai pas trop aimé le film. Hein. Bon, moi, j'ai pas aimé le film d'abord parce qu'il y a trop de musique et que 2h30 de musique sur 3h de film, ça finit par me casser la tête. Mais ça, c'est un autre problème. Mais voilà, moi, je m'attendais en fait, mais c'était mon attente personnelle, qu'il y ait plus de questions morales en fait. On arrive assez vite à ces questionnements qui ont dû avoir lieu, parce qu'on voit qu'il y a des questions de pétition autour de bon, bah, les Allemands ne vont pas faire la bombe, et comme la motivation première de ce projet, c'est de faire la bombe avant les Allemands, si les Allemands ne l'ont pas, quelque part, ça fait un peu tomber l'objet de base. Quoi.
Ils n'en savaient rien. Si tu veux, il y avait une course. Ils savaient qu'il y avait des savants allemands capables de la faire. Et à part ça, c'était pas évident de dire en 42 les Allemands ne vont pas.
Ah non, en 42 bien sûr. Oui, mais à un moment dans le film, on sait que les Allemands ne l'auront pas. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'ils disent dans le film. Il me semble, je suis à peu près sûr de ça. Et je pense que
à ce moment-là, il y a un certain nombre de scientifiques qui ont dit bon, bah, écoutez, on arrête là. En particulier Rotblat, un Anglais. Qu'on retrouvera par ailleurs. Mais Oppenheimer, on le voit dans le film, a dit que il a approuvé en fait le fait qu'on l'utilise contre le Japon. Alors qu'il y a pas mal de gens qui disaient bon, bah, écoutez, le Japon, de toute façon, ils ont perdu la guerre en 1945. Et quand il y a l'épisode où le général lui dit qu'il faut avoir la bombe en juillet, il lui dit qu'il faut absolument avoir la bombe au printemps, et Oppenheimer lui dit c'est pas possible, on va essayer de la faire pour juillet, et en fait elle a été prête fin juillet pour pouvoir fonctionner au mois d'août. Mm-hmm. Hiroshima et Nagasaki. Et donc il a approuvé. De toute façon, ce qui est très intéressant, c'est son entrevue avec le président Truman, parce que Roosevelt était parti, c'était Truman, et Truman, c'était un réaliste, il se posait apparemment, et c'est vrai d'ailleurs, il se posait pas de questions, et donc il a dit à Oppenheimer, bon, on considère que c'est vous qui êtes le père de la bombe atomique, c'est très bien, mais en fait, la décision, c'est moi, c'est le pouvoir politique, et vous n'avez rien à dire. Et c'est là qu'il s'est rendu compte qu'en fait, il s'était embarqué dans cette affaire et qu'en fait, il n'y pouvait plus rien. C'était pas ce qui est logique, en fait. C'était pas à lui de décider.
Non, bien sûr, mais...
Il avait approuvé, même si au dernier moment, il avait dit plus tôt qu'il n'était pas d'accord pour qu'on la fasse sur le Japon, on lui aurait dit, ben écoutez, vous êtes bien gentil, mais il aurait rejoint ceux qu'on... En particulier, on voit le... Je ne sais plus comment, qui c'était.
Zillard. Il y a Zillard aussi qui fait le...
Zillard, qui était aussi un très grand savant, qui a dit qu'il n'était pas d'accord. Et aussi le Danois, Niels Bohr, je crois. Okay. Qui dit... Alors, ce que je dis, c'est que même s'il avait dit qu'il n'était pas d'accord, ça se serait fait indépendamment de lui, ce que Truman lui dit. Mais... Il pensait que, ce que beaucoup de gens ont pensé d'ailleurs à cette époque, que posséder une arme si destructrice amènerait la paix. Ce qui avait précédé toute la théorie de la dissuasion. C'est-à-dire que si effectivement il y avait cette arme terrible, ça permettrait d'éviter les conflits. Alors, ce qui a peut-être évité les conflits pendant la guerre froide, et puis on s'aperçoit qu'en fait, les conflits, d'abord, il y en a eu beaucoup d'autres qui n'étaient pas le conflit majeur entre l'URSS et les États-Unis, mais il y a eu des conflits sans arrêt, les guerres d'Indochine, la guerre de Corée, les guerres de ceci, de cela, mais sans utilisation de la bombe atomique. Ce à quoi il n'a pas participé, parce que là, il a pensé que ça suffisait comme ça, que la science était allée trop loin, c'est la bombe à hydrogène qui est défendue par Teller et qu'on voit bien dans le film, et qui lui explique depuis le début que sa bombe, bon, c'est un petit truc, et qui lui a mis au point effectivement la bombe à hydrogène. Les Russes l'ont développée également pas longtemps après, et la bombe à hydrogène, c'est vraiment l'horreur, quoi. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus puissant que la bombe atomique. Là, tu peux détruire au moins l'hémisphère nord, disons, parce que s'il y a une guerre nucléaire avec la bombe à hydrogène, il est probable que l'hémisphère nord serait condamné, ou en tout cas qu'il y ait des milliards de morts.
Et tout à l'heure, tu as parlé de l'appel de Stockholm. C'est quoi exactement ce moment-là?
Mais c'est un appel lancé par Einstein et Russell, le philosophe anglais, philosophe et scientifique anglais, pour justement interdire l'arme atomique. Donc les scientifiques, les grands scientifiques ont pris position contre lui. Et donc Joliot Curie s'est joint à ces scientifiques pour dire qu'il ne fallait pas continuer cette histoire de bombe atomique, mais c'était trop tard. Les politiques s'en étaient emparés. Et il y a toujours eu suffisamment de scientifiques et d'ingénieurs, etc., pour mettre au point la bombe, en particulier en France. Un certain nombre de ceux qui étaient aux États-Unis ou qui sont revenus ou qui ont travaillé par la bombe, au commissariat à l'énergie atomique, dès 1945, il y a eu ce qu'on appelle la DAM, la Direction des Applications Militaires, qui existe toujours, qui a mis au point les bombes atomiques et qui continue à être chargée de l'armement nucléaire. Donc, et à la DAM, il y a plein de scientifiques, forcément, et des très grands scientifiques, etc. Donc les scientifiques se sont partagés. Quand j'étais au CEA, à Saclay, il y avait beaucoup de scientifiques de valeur, et la plupart étaient contre les applications militaires et pour les applications civiles. Enfin, tous étaient pour les applications civiles. Contre la direction des applications militaires, tu avais aussi des scientifiques très éminents qui participaient à la fabrication de l'arme atomique. Et ça continue. Tu as dans l'industrie militaire nucléaire, des ingénieurs et des scientifiques, un peu comme ceux qu'on voit dans le film. Mm-hmm. C'est pareil, quoi. C'est-à-dire qu'ils considèrent que faut absolument avoir la bombe atomique, ça donne une puissance à la France, etc. etc. Et donc, ils sont tout à fait volontaires, quoi. Je veux dire, personne ne les oblige à aller à la DAM.
Là, il y a une question qui me vient avec ce que tu viens de dire. Qu'est-ce que tu penses de cette position des scientifiques que tu décris au CEA, par exemple, qui sont contre les applications militaires et pour les applications civiles? Est-ce que c'est une position cohérente?
D'une certaine façon, oui, parce que, si tu veux, il y a d'un côté cet aspect destructeur, etc., et de l'autre côté, une utilisation pacifique qui a été d'ailleurs tout à fait généralisée à partir de 1953, le discours d'Eisenhower qui dit « Atom for peace » et l'énergie nucléaire est apparue comme la production d'électricité d'origine nucléaire est apparue comme le bon côté de l'énergie nucléaire. Et le cas le plus frappant, c'est le Japon. Ça a parfaitement marché au Japon. Les Américains sont arrivés à dire « Voilà, certes, c'est terrible ce qui s'est passé, mais c'était nécessaire, enfin bon, etc. » Alors que le Japon a souffert de la guerre. D'ailleurs, les bombes atomiques ont été destructrices de façon considérable du fait que tu pouvais anéantir une ville avec une seule bombe, mais toutes les villes du Japon, sauf Kyoto, ont été inondées de bombes par ce qu'on appelait les forteresses volantes. Et donc le Japon était pratiquement rasé, quoi. Et ils sont arrivés en disant, ben voilà, c'est vrai, c'est terrible, mais maintenant, il y a le côté positif. Et moi, j'ai vu des photos ou des films où les Japonais sont fascinés, ont approuvé l'énergie nucléaire civile. Donc, ça a été tout à fait différent.
Parce qu'il me semblait que moi, en fait, on ne pouvait pas dissocier les deux. Et qu'en fait... Essayer de dire il y a un côté qui est bien, un côté qui est mal, ben en fait c'est oublier que c'est quand même la même pièce, quoi.
C'est pas tout à fait comme ça, parce D'accord. que si tu prends des trucs, la dynamite, tu t'en sers pour la construction, construire des barrages, faire sauter des trucs, ou je sais pas quoi. Et puis tu peux utiliser aussi pour le côté militaire, il y a plein de choses comme ça. Et donc là, c'était vraiment la même énergie qui ne créait pas ce côté destructeur, etc. Alors après, on s'est aperçu que c'était pas complètement inoffensif, puisqu'il y a eu des accidents, que de toute façon, même à partir des mines, etc., les mines d'uranium, etc., il y avait de la radioactivité. Dans toutes les activités nucléaires, il y avait de la radioactivité. Mais on nous a expliqué qu'en fait, tout ça était contrôlé, qu'il y avait des limitations, que les réacteurs, il n'y avait pas d'accident. Donc tout ça était plutôt pas mal. Et il a fallu, pour une certaine partie de la population, qui avait été enthousiaste, y compris au moment de la bombe, c'est-à-dire c'était extraordinaire. Moi, je me souviens très bien du moment, pas les explosions japonaises, mais les essais dans le Pacifique, c'était considéré comme des choses extraordinaires.
Tu veux dire, la couverture médiatique de ces événements, c'est un succès incroyable.
Oui, bien sûr. D'où le bikini, quand même.
C'est-à-dire
le maillot de bain, le bikini. Oui. Le bikini, c'est l'île où a fait poser les essais, qui a été mondialement connue, et c'était extraordinaire. C'est pas négatif.
Moi, j'avais vu effectivement un documentaire sur les familles américaines qui allaient voir dans le désert les essais de bombes atomiques, comme ils allaient au cinéma, quoi. Ils allaient voir un spectacle.
Oui, même ça. Alors en plus, si c'est pacifique et que ça ne fait pas de destruction massive, tu te dis, c'est effectivement... Il y a eu le démarrage du nucléaire qui a été très extraordinaire. Enfin, ça a monté.
Je me suis dit, faisons un parallèle, peut-être audacieux. Mais toi aussi, en fait, t'aurais pu continuer à être un scientifique qui bossait sur des équations au CEA sans te poser énormément de questions sur ce qui se passait, quoi.
Exactement.
C'est quoi le moment où, en fait, toi, tu te dis, est-ce que je vais vraiment continuer longtemps à faire de la physique nucléaire? Enfin, c'est pas une bonne question, mais en tout cas, quand est-ce qu'à un moment tu sors de ces rails-là, quoi?
Alors, c'est par étapes. Le changement dans ma vie professionnelle, c'est en fait en 68, mai 68, où on n'a pas parlé du tout de nucléaire, mais il y a eu un esprit de révolte, disons, et que dès le début... Le 13 mai, je crois, la grande manifestation. Il y a eu un groupe de gens, dont je ne faisais pas partie d'ailleurs, quelques personnes, qui ont déclaré qu'il fallait faire la révolution et créer des comités d'action partout, comme les soviets. D'ailleurs, il y a un petit livre. Le leader de ça, c'était quelqu'un qui s'appelait Jacques Pesquet, qui était en fait une entreprise extérieure et qui était très politisé, d'extrême gauche, et qui a écrit un petit livre qui s'appelle « Les soviets à sa clé », et où il raconte le début, c'est-à-dire un petit groupe qui dit « les soviets, des conseils. Des conseils d'unité et donc des élections de conseillers dans chaque service. » Donc, je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, j'ai été élu dans mon service.
Je sais pas.
Oui, parce que j'étais syndiqué à la CFDT, mais tout à fait payé ma cotisation. Je ne m'occupais pas du tout de ces questions, ni politiques, ni syndicales. Et puis, j'ai été élu au niveau du service, puis au niveau du département. Donc, j'étais dans le conseil de service, dans le conseil de département, puis dans le conseil de direction, puis dans le conseil général de Saclay. Et je suis devenu secrétaire du conseil syndical d'action, enfin quelque chose comme ça, dans lequel il y avait le président, c'était quelqu'un qui était un ingénieur, un polytechnicien, prêtre. C'était un ingénieur prêtre, il y avait les prêtres ouvriers, mais il y avait prêtre ingénieur. Il était polytechnicien d'ailleurs, très respecté par tout le monde d'ailleurs. C'était un type absolument remarquable, qui était aussi très à gauche, voire...
C'était qui ce monsieur?
Bernard Boudouresque, il s'appelait.
Mais enfin, comment ce chemin-là te sort de tes rails de physicien nucléaire?
Tu apprends à travers ça la contestation.
Ouais.
Bon. Et donc après, j'ai été délégué du personnel, je continuais à travailler, etc. J'ai passé ma thèse de doctorat d'état en 72. Et puis, en 69, il y a eu la crise très forte au CEA, puisque le gouvernement a décidé de changer, d'abandonner la filière Graphite-Gaz et de prendre la filière, les filières américaines. Et donc, ça a été une crise importante avec des c'était pas des licenciements, mais des primes de départ, etc. Il y avait, surtout sur les usines et surtout à Marcoule. Et donc, tout ce monde-là a été ébranlé. Et le syndicat, on s'est rendu compte qu'en fait, personne ne savait ce que faisaient les autres. Parce que ben, c'était la Hague, mais moi, la Saclay, je ne connaissais pas du tout le retraitement, la radioactivité, tous ces trucs-là, ce n'était pas mon truc. Et donc, on a travaillé pour faire des qu'on appelait des cahiers, d'abord pour les adhérents, en expliquant ben, un réacteur nucléaire, voilà comment ça marche, la radioactivité, qu'est-ce que c'est, le traitement des combustibles, etc., etc. Pour les adhérents. À l'époque, il n'y avait aucune information sur ces questions. Rien. Donc chacun savait son truc. Moi, je faisais mes calculs, un autre faisait des trucs. Et puis les mecs de la Hague, bon, ils se faisaient irradier. Et ça a été formidable. En 73, j'en avais un peu marre de travailler dans ce secteur. Il y avait un poste libre, justement du fait de mai 68. Il y avait un poste libre de permanent syndical. Donc je suis devenu permanent syndical à CFDT du CEA. Et là, c'est à ce moment-là qu'on a décidé de faire les cahiers. Et dans les cahiers, j'ai fait la partie descriptive, technique sur les réacteurs. Et puis après, j'ai regardé les problèmes de sûreté nucléaire. Et ces cahiers ont eu un succès extraordinaire dans le CEA. Tout le monde a trouvé que c'était formidable. L'administrateur général du CEA nous a dit, écoutez, bravo, truc d'information, très bien fait, très juste, parfait. Et Lévi Leblond, qui dirigeait la collection Science au Seuil, nous a proposé de faire un livre à partir des cahiers. Et on s'est mis à écrire l'électronucléaire en France.
Voilà. On, c'était Benjamin et toi?
Non, pas du tout. Benjamin n'était pas du tout.
Ah d'accord, pardon. Non.
C'était plusieurs du Bureau National, et surtout Jean-Claude Zerbib et moi. Et lui, c'était toute la partie, un travail absolument colossal sur la radioactivité, les conditions de travail, enfin, toute une partie très importante du livre. Et lui n'était pas permanent, d'ailleurs, il continuait à travailler. Et moi, j'étais permanent, et j'ai travaillé donc un an sur la sûreté nucléaire des réacteurs, et en particulier des nouveaux réacteurs à partir de documents américains. Et donc, en travaillant sur la sûreté nucléaire, c'est là que je me suis dit, bon, c'est pas possible, c'est trop dangereux. Et c'est trop dangereux parce que, justement, dans le livre, si tu le lis, le livre a été publié en 75, donc j'ai travaillé là-dessus, tu vois, 74, un an pratiquement là-dessus. Et on s'aperçoit que, bon, ben, on décrit les accidents qui se sont passés après, en particulier Trima Island. Bon, ben, là, je me suis dit, bon, terminé. Et donc, à partir de là, j'ai été très actif dans la critique du nucléaire, et en particulier toute la période où il y avait les projets d'EDF sur les centrales. Et donc, j'allais sur les lieux de centrales pour débattre contre EDF, ce qui était d'ailleurs très violent à l'époque. Maintenant, ils ont appris que la communication, c'était beaucoup plus truc, mais là, c'était, y compris des attaques personnelles. Comment se fait-il, M. Laponche, c'est là, etc., que vous êtes contre le nucléaire, c'est possible. Donc, après, je suis revenu au CEA travailler, je suis resté 3 ans permanent, puis je suis revenu travailler, mais cette fois-ci dans la partie des programmes, c'est-à-dire, c'est là que j'ai travaillé, ça m'a fait le plus grand bien, d'ailleurs, sur la prospective énergétique. Et puis les économies d'énergie qu'on défendait dès cette époque, les politiques alternatives, la CEDT, ça a été très actif. Je suis parti sur la maîtrise de l'énergie pour le reste de ma carrière professionnelle.
Dans le film, je reviens à Oppenheimer quand même, Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de scientifiques, beaucoup, beaucoup de physiciens à l'écran, vraiment il y a beaucoup de monde. Est-ce que toi, il y a des gens que tu as croisés?
Ah ben oui. Alors, à quelle occasion? Parce que... Après cette histoire, le début de la guerre froide, il y a eu la création de ce qu'on a appelé le mouvement Pugwash, qui a été lancé au départ, je crois, par Einstein et Russell, avec un milliardaire canadien. Je ne me souviens plus de son nom.
Ouais, on le trouvera.
On le trouvera. Qui les a invités dans un lieu au Canada qui s'appelle Pugwash. je ne sais plus si c'est une île ou simplement un lieu, où il avait une maison, enfin bon. Et il a dit, bon, bah, écoutez, voilà, je vais inviter quelques grands scientifiques américains et quelques grands scientifiques soviétiques à l'époque pour essayer de voir si les scientifiques entre eux pourraient discuter des questions de paix, de guerre, etc., pour essayer de, comme chacun sont quand même des liens avec leur gouvernement, c'était un moyen d'essayer de calmer un peu le jeu, quoi. Alors ça s'est étendu, c'est-à-dire dans un certain nombre de pays, il y a des scientifiques qui participaient au mouvement punk wash. Et moi, en 67, je crois, j'ai adhéré au mouvement punk wash, parce qu'il y avait un mouvement punk wash en France, quelques personnes, et chaque année, il y avait la réunion des membres du mouvement punk wash. Et donc en 67, je suis allé à... C'était en Suède. C'était marrant, c'était le jour où la Suède a décidé de passer de... Ils roulaient à gauche et ils sont passés à droite. Enfin, on était juste au jour où ils ont changé les trucs. C'est un hasard. Ouais. C'était rigolo. Et alors là, j'étais les yeux écarquillés parce que je rencontrais M. Rabi, prix Nobel de physique, M. Rabinovitch, prix Nobel de physique, M. Truc, prix Nobel ou presque de je ne sais pas quoi. Et alors tu croisais ça. Alors il était marrant parce que le problème c'était le conflit entre Israël et Palestine. Et il y avait des scientifiques israéliens et des scientifiques palestiniens qui étaient venus. Et un jour, ils se sont démerdés. Ils les ont enfermés dans une salle pour les obliger à se parler. Alors, c'était marrant parce qu'il y avait des réunions générales où on discutait de choses et d'autres, mais on sentait bien qu'il y avait un comité haut placé où se disaient des choses qui ne se disaient pas en assemblée générale. Et évidemment, je n'ai jamais fait partie des comités haut placés. Et comme ça, pendant plusieurs années, je suis allé aux réunions punk wash, et je me souviens très bien, en 68, la réunion était, je ne sais plus si c'est à Cannes ou à Nice, était donc en France, et il y avait Kapitsa. Kapitsa, c'était le père de la bombe H soviétique. Et 68, c'était l'invasion... la Tchécoslovaquie par les chars russes. Et tout d'un coup, on a vu disparaître nos prix Nobel qui se sont réunis quelque part, mais on n'a été au courant de rien. Et en fait, ils avaient souvent ce rôle-là. Je sais qu'il y a certains membres, y compris français, un ou deux, qui étaient beaucoup intervenus pendant la guerre du Vietnam pour essayer d'avoir des contacts avec les Chinois, les Russes, les Vietnamiens, etc.
Et donc c'était un réseau informel de diplomatie, enfin, c'était...
Oui, c'était un réseau informel de diplomatie. Entre des gens qui se connaissaient, qui se respectaient, qui s'étaient rencontrés dans les congrès, les grands congrès, machin, de sciences, de physique fondamentale, etc. Et qui se respectaient, quoi. Donc, alors par contre, les réunions générales étaient intéressantes, mais plus ordinaires, disons. Et en fait, du coup, on était membre de Punk Wash, et on est membre de Punk Wash à vie. Et donc, je suis prix Nobel, puisque en tant que membre de Punk Wash, a eu le prix Nobel, qui a été remis à M. Rotblat, qui était donc un scientifique anglais, qui n'avait pas voulu s'associer à la première bombe atomique des années 40, et qui était devenu secrétaire général jusqu'à assez récemment, puisqu'il y a... Le prix Nobel, je ne sais pas, ça date d'il y a une dizaine d'années peut-être. Voilà. Et c'est à cette occasion que j'ai rencontré donc ces gens. Alors il y en avait un, c'était le découvreur de je ne sais pas quoi. Enfin, à tous les virages, tu trouvais des personnalités connues, qui étaient en général d'ailleurs assez normales. Enfin, ils ne se prenaient pas pour la reine d'Angleterre. Et c'était assez sympathique. Puis j'ai quitté le punk wash français, justement, au début des années 70, enfin vers 74, 73 justement, parce qu'ils étaient tellement pro-nucléaires que je ne supportais plus, quoi. Pro-nucléaire civil.
Très bien. La boucle est bouclée. Eh bien, merci Bernard pour ce temps de voyage dans le passé et à bientôt pour un nouvel épisode d'Un déjeuner chez Bernard. Un déjeuner chez Bernard est un podcast financé par Global Chance. association d'expertise scientifique indépendante sur la transition énergétique. Le générique a été composé par Jack ALS et Feel the Sound, le morceau s'appelle Volcano. À bientôt pour un nouvel épisode d'un Déjeuner chez Bernard.